Le journal de Nicolas Meusy.
Bonjour, l'équipe de Suisse se frotte à un cador du football en Coupe du Monde. Elle affronte le Brésil à 17h pour son deuxième match. Selon notre consultant Vincent Ducomin, la Nati doit aborder cette rencontre sans complexe. Le conseil de ville de Delémont aura une séance chargée ce soir. 19 points à l'ordre du jour occuperont le législatif delémontain, notamment un crédit de 13,5 millions de francs pour une nouvelle école aux arquebusiers. Moutier a choisi ses autorités pour la législature qui verra le transfert de la ville dans le Jura. Les fronts n'ont que peu bougé, mais la page qui s'ouvre sera exaltante pour le conseiller municipal PSA et président de la délégation aux affaires jurassiennes, Valentin Zuber. Les nuages dominent le ciel de la région aujourd'hui. Quelques gouttes de pluie sont annoncées pour cet après-midi. Les températures oscilleront entre 5 et 9 degrés au maximum. L'immense défi aujourd'hui pour la Nati qui affronte le grand favori de la Coupe du Monde. L'équipe de Suisse de football va défier le Brésil pour son deuxième match cet après-midi à 17h. La même affiche qu'il y a 4 ans et qui avait alors accouché d'un très bon match pour la Suisse. Un nul, un but partout. Le Brésil a remporté son premier match, tout comme la Suisse. Même face aux Oriverdais, pas question d'y aller avec un complexe d'infériorité. Même si l'affrontement de 2018 est déjà loin, il fait partie des matchs qui ont appris à la Nati à croire en elle, ce qui transpire dans le discours d'avant-match du milieu offensif Jerdan Shaqiri.
Ja, Brasilien, wissen wir alle, was es für eine große Nation ist, Fußballnation auch ist und auch ein großer Favorit immer für den Weltmeistertitel.
On sait tous que le Brésil est une immense nation de football, c'est un favori pour le titre comme à chaque fois, mais on est aussi conscient de nos qualités. On y va pour prendre un résultat positif comme il y a 4 ans, avec de la confiance et des certitudes.
Ja, mit Selbstbewusstsein in das Spiel rein. Ja, schau, 4 Jahre, schon einige Jahre her, und jetzt ist ein ganz komplettes anderes.
Après, on ne peut pas comparer avec 2018, ça fait déjà quelques années, c'est une toute autre équipe. Nous avons aussi des joueurs différents. Ce sera donc un tout autre match, on doit s'y préparer. Mais on sera prêt, on va tout donner pour ramener une fois encore un bon résultat contre le Brésil.
La Suisse qui va affronter un Brésil privé de sa star Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain s'est blessé à la cheville lors du premier match. Le Brésil sans Neymar, ce n'est pas pareil, mais pas forcément moins fort, selon l'entraîneur assistant de la Nati, Vincent Cavin.
Bien sûr, ça change quelque chose parce que c'est un joueur extraordinaire et on ne peut pas dire si un joueur extraordinaire manque dans un effectif, ça change quelque chose. Après, la personne qui va le remplacer sera d'un niveau aussi exceptionnel, mais je pense que Neymar est un joueur, s'il manque, la présence ou l'absence est notée.
Malgré l'adversaire, la Suisse ne devra pas renier son football. C'est l'avis de notre consultant et ancien entraîneur Vincent Ducomin qui était l'invité de la matinale ce lundi.
Je crois qu'ils doivent jouer comme ils savent jouer. Yakin l'a aussi précisé. Je crois qu'ils vont pas changer grand-chose et puis ils vont jouer à fond. Et puis c'est magnifique de pouvoir jouer le Brésil en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Donc au niveau de motivation, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais après, c'est gagner les duels, c'est ne pas se lancer, c'est être compact derrière et puis jouer les contres parce que la Suisse est aussi une bonne équipe. Ils doivent avoir peur de personne, en fait.
Et le fait d'avoir 3 points dans la besace au moment d'aborder le deuxième match, ça rend service aussi forcément dans la manière d'aborder la rencontre.
Oui, évidemment. Si on part avec 0 point, on joue contre le Brésil, on réfléchit déjà au troisième. Tandis que là, y a un joker, c'est le Brésil, c'est un match de gala, mais il ne faut pas jouer pour se dire on va faire 3 points au troisième. Si on peut faire 1 point, ça serait magnifique.
Dossier signé Michel Léonier, Jérémy Pignard avec nos confrères de la RTS. Suisse-Brésil, coup d'envoi ce soir à 17h. On fera le point sur la rencontre dès le journal de 18h et dans le rendez-vous Coupe du Monde à 18h30. L'affaire est classée en ce qui concerne le recours contre l'annulation des élections communales à Hall. La juge administrative en charge du dossier a décidé de ne pas donner suite. C'est ce qui ressort d'un communiqué du tribunal de première instance publié en fin de matinée. La juge prend acte que les élections se sont déroulées selon le calendrier fixé par la loi et qu'aucun recours n'a été déposé contre ces élections et leur déroulement. La décision de la juge peut encore faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Cour constitutionnelle. Le conseil de ville de Delémont se prépare à une séance Maus. Pas moins de 19 points figurent à l'ordre du jour du législatif de la capitale jurassienne qui se retrouve ce soir. Le conseil de ville va débattre de gros dossiers dont la hausse de la rémunération du maire et des conseillers communaux ainsi que la demande d'une subvention complémentaire de 220 000 francs pour la fondation Claire Logis. Le message à la population sur un crédit de 13,5 millions de francs destiné à la réalisation d'un nouveau bâtiment scolaire aux arquebusiers figure aussi au menu. Le projet répond à un réel besoin, François Comte.
La nécessité de construire un nouvel édifice scolaire tient en plusieurs points. Elle s'explique par l'actuel manque de locaux aux normes, la situation au niveau des effectifs, le développement démographique pressenti de la ville et l'évolution prévue des méthodes d'enseignement. La future école des Arquebusiers devrait ainsi accueillir quelque 260 élèves. Le bâtiment sera principalement construit en bois, dont une part importante proviendra des forêts de la bourgeoisie de Delémont. Outre des salles de classe, l'édifice pourra aussi comprendre dans un second temps d'autres équipements comme une cantine scolaire ou encore une crèche. La construction du nouveau bâtiment engendrera la suppression de 66 places de stationnement sur 251 sur le parking du Gros Pré. Pour le conseil communal, il s'agit d'un dimensionnement a priori suffisant selon les comptages de véhicules réalisés. À plus long terme, un parking en silo ou souterrain pourrait être réalisé selon les besoins.
Le crédit destiné à la réalisation du nouveau bâtiment scolaire des Arquebusiers sera soumis à en votation le 12 mars prochain. La mise en service est prévue en août 2026. Delémont devrait injecter 700 000 francs pour alléger les factures. Face à la nouvelle augmentation du prix du gaz de 4,5 centimes kWh annoncée par Régiogaz SA au 1er octobre, les autorités communales ont décidé d'absorber en partie cette hausse. La ville prendra à sa charge 1,5 centimes kWh en piochant dans le fonds dédié au lissage des tarifs. Au final, les clients paieront la molécule de gaz 3 centimes par kWh. Deux assemblées communales se tiennent ce soir dans le canton, la première en Ajoie, à Fontenay. Les citoyens ont rendez-vous à 20h à la salle Gérard Brenière du bâtiment des services communaux. Ils se prononceront sur le règlement du cercle scolaire de la commune ou encore l'adoption du projet de révision du plan d'aménagement local. La seconde assemblée communale a lieu dans les Franches-Montagnes, à Saint-Bray, à 20h à la halle de gymnastique. La première section se penche sur le budget 2023 et plusieurs points concernant la zone d'activité d'intérêt cantonal, notamment d'autoriser le syndicat de la zone AIC à entreprendre et conclure les démarches pour attribuer les travaux de viabilisation du site au Noirmont. La deuxième section se prononcera, elle, sur le budget 2023. Moutier s'apprête à vivre une législature historique, celle qui verra la ville être transférée dans le canton du Jura en 2026. Les élections municipales ont rendu leur verdict hier dans la cité prévotoise. Constat, les fronts n'ont que très peu bougé, tant à l'exécutif qu'au législatif. Derrière le maire du centre, Marcel Winisterfer, le conseil municipal prendra toujours 5 élus autonomistes, alors que l'UDC occupera 3 fauteuils, un de plus qu'actuellement. La participation n'a atteint que 44,5%. Quoi qu'il en soit, la période politique qui va s'ouvrir à Moutier sera exaltante pour les partisans du Jura. Le conseiller municipal PSA et président de la délégation aux affaires jurassiennes, Valentin Zuber.
On était par le passé plutôt dans des campagnes et ensuite dans des législatures très militantes. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'opérationnel, mais ça reste un processus politique, ce qui veut dire qu'il est gouverné au niveau politique par les autorités. Et à ce titre, eh bien, les élus, les nouveaux élus depuis hier, ont un immense rôle à jouer parce qu'ils portent la responsabilité de transférer Moutier dans le Jura. Alors oui, effectivement, je pense que c'est une des plus exaltantes.
Les fronts n'ont pas véritablement ou très très peu bougé entre les gens affichés autonomistes et les antiséparatistes. Est-ce que les résultats d'hier en ce sens vous ont quelque peu surpris ?
Oui, pour être très 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 honnête, je m'attendais à ce que l'électorat antiséparatiste ne soit pas aussi mobilisé que cela, d'après les déclarations. Et quelque part, il y a une forme de surprise, c'est de voir que malgré la baisse de la participation, les fronts sont restés pratiquement identiques à il y a 4 ans et 8 ans. On est aujourd'hui sur du 2/3, si on résume peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a des partis neutres. Mais effectivement, on voit, il reste aujourd'hui 25% des élus à Moutier qui sont farouchement antiséparatistes. Et donc, il faut composer avec eux. Maintenant, dans ma fonction, je trouve que c'est bien que ces gens soient là. Je préfère, entre guillemets, qu'il y ait des adversaires politiques avec qui on peut travailler, plutôt que des gens qui ont démissionné, qui ne travaillent pas et qui critiqueraient. Et on a besoin aussi de ces représentants d'une frange de la population pour transférer Moutier.
L'entente jurassienne, pour la première fois, n'a pas opéré d'apparentement. Si elle avait fait, les antiséparatistes, l'UDC, auraient un siège de moins au conseil municipal. Est-ce que c'était une erreur politique de la part de l'ensemble des partis autonomistes?
C'est difficile à dire. On peut toujours juger de l'utilité d'un apparentement. après plutôt qu'avant, c'est un pari qu'il faut prendre. Ce qui est sûr, c'est que les partis autonomistes avaient voulu envoyer un signal fort à la population en leur disant « c'est une élection où on dépasse la question jurassienne et quelque part on est sur un registre partisan et plus sur un registre jurassien-aubernois ». Et ce qu'on constate avec les résultats, c'est que finalement l'électeur prévotoire, en tout cas celui qui s'est rendu aux urnes, il vote d'abord sur cette question-là. Il vote d'abord un parti autonomiste ou un parti pro-bernois, puis ensuite il choisit de gauche à droite en fonction de ses sensibilités. Donc peut-être que le message de l'entente jurassienne était prématuré d'une législature. Alors effectivement, a posteriori, on est obligé de dire que c'est une erreur politique, puisque les autonomistes auraient fait un siège de plus et l'UDC un de moins au conseil municipal. Mais comme on dit, on est toujours plus malin après.
Valentin Zuber répondait à Raphaël Chalvera. Pas le temps de digérer la grande satisfaction pour Elisabeth Baumschneider. La candidate jurassienne à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral a été retenue samedi sur le ticket socialiste en compagnie de la Baloise Eva Herzog. Elle doit désormais convaincre les membres de l'Assemblée fédérale jusqu'à l'élection du 7 décembre. Et le travail commence aujourd'hui pour Elisabeth Baumschneider qui était l'invitée de la matinale aujourd'hui.
Je commence ce matin, je vais à un intergroupe et puis j'explique d'où je viens, qui je suis et peut-être aussi surtout le fait que je suis quelqu'un de fiable, de stable. Effectivement, je suis une femme de gauche, mais je suis aussi une femme de dossier qui a montré que je peux tout à fait travailler dans un gouvernement de centre-droit, que je sais ce que c'est que la collégialité, que je sais ce que c'est que de travailler des dossiers grâce à l'administration. Enfin voilà, c'est un peu de montrer, comme d'autres d'ailleurs, ma manière de travailler pour essayer de rassurer et de convaincre.
Et vous devrez notamment convaincre aussi que ce siège de Simonetta Sommaruga n'est pas promis aux alémaniques et justifier qu'une autre mande au Conseil fédéral, ce serait légitime. Comment est-ce que vous allez vous y prendre de ce côté-là ?
Là, je crois que ce n'est pas tellement moi qui peux m'y prendre, c'est que la Constitution, elle est claire, elle parle de représentation équitable, donc ce n'est pas égalitaire, parce que sinon, par exemple, les Tessinoises et les Tessinois n'auraient même jamais de conseiller fédéral, vu qu'ils ne représentent pas le 7% de la population. Mais surtout, le conseiller fédéral, c'est un organisme vivant, et puis on pourra à tout moment rééquilibrer ce qui semblerait être un déséquilibre lors d'un prochain départ, parce que, je veux dire, il y a encore 3 semaines, personne n'imaginait que Mme Sommaruga allait quitter. Il faut réfléchir à la Suisse et puis pas uniquement aux régions linguistiques et puis voir ce que je peux apporter dans un collège gouvernemental sur le plan fédéral. Mais ce n'est pas du tout, à mon avis, quelque chose de dangereux que d'avoir à un moment donné une minorité qui serait surreprésentée au Conseil fédéral.
Elisabeth Baumschneider était l'invitée de Michel Léonier aujourd'hui dans la matinale. Vous pouvez retrouver son entretien complet sur rfj.ch. Les pesticides, fongicides et autres herbicides utilisés en Suisse sont moins dangereux pour l'environnement. C'est ce qui ressort d'un bilan de l'Office fédéral de l'agriculture présenté aujourd'hui. Autre point mentionné, les risques liés aux produits phytosanitaires sont en baisse ces dernières années. Mais l'utilisation de fongicides a été particulièrement élevée l'an dernier. Les produits choisis par les agriculteurs sont toutefois plus respectueux de l'environnement. Le spécialiste à l'Office fédéral de l'agriculture, Olivier Félix.
On constate depuis plusieurs années cette tendance à une diminution des produits conventionnels et à une augmentation de l'utilisation de produits utilisables en agriculture biologique. Donc quand on dit utilisables en agriculture biologique, ça veut dire qu'ils peuvent également naturellement être utilisés dans l'agriculture conventionnelle ou en production intégrée. Et ça, c'est une tendance assez forte que l'on remarque d'année en année. Et en 2021, on peut dire que l'augmentation importante a été presque entièrement liée à des produits utilisables en agriculture biologique.
Donc ça veut dire des produits qui sont quand même moins nocifs que les autres ?
Alors, c'est des produits qui sont effectivement moins nocifs. C'est aussi des produits qui sont plus difficiles à utiliser parce que parfois moins efficaces, qui nécessitent aussi des traitements plus fréquents. Si on peut substituer des produits à haut potentiel de risque par des produits qui ont un potentiel moins élevé, ça permet aussi justement de réduire le risque, même si on augmente les quantités.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
RFJ, il est 12h29.
Sport. L'équipe de Suisse de football affronte le Brésil à 17h pour le deuxième match du groupe G en Coupe du Monde au Qatar. Et on joue actuellement dans le groupe de la Nati. Le Cameroun affronte la Serbie. Le match a débuté à 11h. Et après un peu plus d'une heure de jeu, c'est la Serbie qui mène 3-2. Autre match de la journée, dans le groupe H, la Corée du Sud jouera face au Ghana à 14h. Et à 20h, le Portugal sera opposé à l'Uruguay. le FC Courtaitel impressionne son monde en deuxième ligue interrégionale. Les Vadets sont champions d'automne après leur dernière victoire 3-1 face à Fribourg ce week-end. Le FCC sort d'une première partie de saison quasi parfaite. Aucune défaite en 15 matchs et seulement 8 buts encaissés. De quoi légitimement nourrir des ambitions de monter en première ligue pour les dirigeants. Invité de la matinale, le président des Verts, Vincent Jolidan, est même étonné d'une telle réussite pour son équipe.
Plus qu'heureux, hein, c'était au-delà de nos espérances. Hein, donc l'objectif, ben voilà, c'était d'être dans le haut de classement, mais sans objectif particulier. Puis maintenant, ben, on est premier, donc voilà. Je sais pas comment on dit, on a une défense de fer, 8 buts reçus, donc 0 défaite, donc voilà. Offensivement, ben, on est quand même là. Les jeunes, les vieux, c'est cet amalgame qui fait qu'on est premier, puis un peu de chance aussi, beaucoup de réussite, et puis... Voilà, tout va bien.
Quand on est premier à la trêve, forcément qu'on a envie de rester premier, on imagine. Côté-t-elle en première ligue à l'été prochain, c'est possible?
Ah ben aujourd'hui, on a 4 points d'avance, donc ça peut être réaliste. Ça veut dire, si on monte, il y a déjà Basse-Cour et Delémont, donc il faudrait que Delémont monte. Maintenant, on doit aussi, il y a des prescriptions pour le terrain. Donc il y a une 12 pages à lire, je les ai déjà. On fera le bilan avec le comité ben, cet hiver, faire les demandes nécessaires, comme ça... Si on doit monter, ben on est en règle.
Le président du FC Courtaitel, Vincent Jolidon, qui répondait à Michel Léoni. Interview complète à retrouver sur rfj.ch. Et puis pour terminer, toujours en football, Heiko Vogel revient au FC Bâle. L'ancien assistant et entraîneur occupera dès le début 2023 le poste de directeur sportif du club rhénan. Le technicien allemand avait déjà travaillé au FCB entre 2009 et 2012. Il était ensuite retourné en Allemagne, notamment pour entraîner les réserves du Bayern Munich et de Mönchengladbach. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Belle journée.